Vous n'avez réclamé ni la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà, que cela passe vite, onze ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins, on était différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinéo, mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Bonjour, vous écoutez bien l'émission Vent de Mière sur Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. L'émission Vent de Mière de ce jeudi 25 novembre 2015, consacrée à Aragon, 34e émission consacrée à Aragon, deuxième de notre nouvelle série avec Jean Knopf et Maria Berlioz. Alors nous avions préparé un programme qui était celui qui avait été fixé il y a déjà quelques temps, et puis en travaillant, Jean et Maria se sont rendus compte que la tâche était d'ampleur, et finalement, bon, vous aurez tout ce qui a été annoncé, mais pas seulement aujourd'hui, quoi. Donc aujourd'hui, on va repartir de la fin de la précédente émission et évoquer des choses fort intéressantes, mais qui ne nous conduiront pas à tout le programme qui était annoncé sur le site. Il suffira d'écouter les prochaines émissions. Jean et Maria, bonjour. Eh bien, bonjour, je vous donne la parole.
Oui, la dernière fois, on s'était fixé de parler dans la continuité de Jean Albertini, hein, donc sa dernière émission étant de 2006, juin 2006, et notamment les Pléiades qu'il n'avait pas pu connaître, donc les deux Pléiades poésie et puis les deux Pléiades romans qui achevaient donc cette série de 5 volumes. Et en travaillant notamment sur ce volume 5 et un ouvrage en particulier qui est Théâtre-roman, qui de plus en plus aujourd'hui apparaît comme une œuvre testamentaire et une œuvre qui boucle la boucle, et notamment dans cette dernière période de la vie d'Aragon. Je rappelle qu'il y a 3 ouvrages majeurs qui sont La mise à mort, Blanche ou l'oubli et Théâtre-roman. Et Théâtre-roman, donc, qui est paru en 1974, la date est importante, hein, parce que c'est le roman qu'Elsa n'a pas pu lire, hein, en même temps qu'Henri Matisse roman, mais Henri Matisse roman, pour des raisons techniques, ne fait pas partie des Pléiades, hein, puisque le nombre de reproductions font qu'il n'a pas été, inclus. Alors, à l'apparition du livre en mai 1974, la prière d'insérer de l'édition Gallimard se termine par la phrase suivante. Théâtre-roman est un livre essentiel qui veut éclairer de l'intérieur la totalité de l'œuvre d'Aragon. Et c'est un petit peu la thèse qui est développée par quelqu'un qui, dans les études aragoniennes, prend une place importante, puisqu'il vient de publier une biographie, la troisième, donc on en parlera ultérieurement, hein, après celle de Dex et celle de Pierre Jukin. Et pour Philippe Forest, la boucle se boucle, hein, puisque Théâtre-roman répond au premier roman d'Aragon, qui est paru en 1921, qui s'intitulait « Anicet ou le panorama, virgule, roman ». Voilà. Donc, dans la suite de Jean Albertini, c'était l'émission 30, hein, qui avait été consacrée à Théâtre-roman. Il avait bien perçu justement cette dimension d'interrogation d'Aragon sur sa propre œuvre. Hein. C'est ce qui fait dire que c'est une œuvre testament. Alors, cette interrogation, cette mise en perspective, un peu cette mise en abîme du créateur, du romancier, sur son travail. Alors, le récit se mue en une méditation sur la création romanesque, où tout procède encore d'une interrogation sans réponse, portant sur l'être même de celui qui n'a plus pour vérifier son improbable existence que le gage très douteux de sa propre parole. Et Aragon dit « Qui suis-je ? Celui qui parle. » Alors, ce qu'on a également, en réfléchissant sur cette œuvre avec Maria, ce qui apparaît, c'est 2 dimensions qui apparaissent de plus en plus fortement. C'est cette interrogation sur le théâtre, cette mutation que le théâtre va connaître, et en même temps une réflexion d'Aragon sur finalement sur mai 68. Hein, on sait que bon, il y a eu des bon le entre le mouvement de mai 68 et le Parti communiste, et puis bon, ce qui représentait, ça a été un peu compliqué. Et finalement, aujourd'hui, quand on lit Aragon, il fait partie de ceux qui ont sans doute raccroché le Parti communiste à 68. Oui. On va l'évoquer un petit peu plus loin parce qu'il en est quand même question dans ces années de 68. Alors sur le théâtre, il y a une interrogation. Je regardais dans les différentes biographies, ce soit Dex, ce soit Juquin ou que ce soit Philippe Forest, notamment dans la... C'est malheureusement ce qui manque dans celle de Juquin, il n'y a pas d'index, et les index c'est quand même drôlement c'est drôlement important, quoi, parce que moi ce que j'ai fait, c'est cette chose qui sidère un peu tout le monde, c'est cette admiration qu'Aragon a pour cet auteur du début du siècle, hein, puisque ces dates, c'est 1872-1922, qui s'appelait Henri Bataille. Il y a une fascination d'Aragon pour Henri Bataille. Je sais, par exemple, que Pierre Juquin, bon, il me l'a dit, hein, il comprend pas, quoi. Il n'arrive pas à comprendre comment Aragon a pu être fasciné par Henri Bataille. Alors que le Bataille, c'est Georges Bataille, donc qui est un contemporain exact d'Aragon, puisqu'il est né en 1897, comme lui, et il est mort en 1962. Et Georges Bataille, c'est cet auteur qui s'apparente à l'avant-garde, hein, qui a une œuvre un peu... moi, j'avouerai que j'ai un petit peu de mal avec Georges Bataille. Finalement, plus avec Georges Bataille qu'avec Henri Bataille, parce qu'Henri Bataille, bon, c'est du théâtre bourgeois, c'est du... voilà, bon, psychologique... C'est pas difficile à comprendre, alors que Georges Bataille, alors on a un côté, d'un côté un érotisme un peu scandaleux, et je pense à ce texte qui s'appelle Histoire de l'œil. Et puis d'un autre côté, alors un mysticisme complètement exalté. Donc c'est vrai que Georges Bataille, il est difficile à suivre, mais c'est un auteur à la mode. Par exemple, on trouve il y a toute une série dans la collection Blanche chez Gallimard de l'œuvre complète de Georges Bataille. Moi, j'ai le premier tome et puis je me suis arrêté là, j'avoue. Mais par contre, Aragon n'aime pas Georges Bataille. Mais alors, Henri Bataille, je me suis un petit peu amusé à... donc, c'est un auteur à succès, un mec qui a eu vraiment du succès, hein. Alors, j'ai relevé quelques titres. Il y a par exemple La Marche nuptiale, Maman Colibri, Polish. C'est un auteur qui était essentiellement joué au boulevard, qui est entré aussi au répertoire de la Comédie française, hein. Il y a un certain nombre de ses pièces qui ont été jouées, et jusqu'en 1939. Et puis ensuite, bon, ben, il disparaît complètement de l'affiche. On n'entend plus parler de lui, plus personne. Et alors, Aragon, il faut savoir qu'en 1923, au moment de... Bon, il galérait un petit peu, hein, pour survivre. Il a été engagé par Jacques Héberthaud, qui était le directeur du Théâtre des Champs-Élysées. Et il était chargé d'animer une revue littéraire. Et il a écrit tout de même... il a écrit deux articles sur Georges Bataille. Le premier est du 21 décembre 23 et le deuxième du 4 janvier. Et il parle de Georges Bataille.
Alors, je crois,
oui, vas-y Maria.
Pardon, et je crois qu'il en dit la chose suivante. En fait, il le défend. Henri Bataille reste. Ne souriez pas comme ça. On voit que vous êtes bête. L'un des plus grands poètes de l'amour et de la mort.
Alors ça, c'est un premier, oui, c'est dans, oui, le premier article. Alors dans, oui, le deuxième, il récidive.
Dans le deuxième, oui. Je me représente Bataille, donc Henri, dans la rue, à la tombée du jour, au moment que la chair des femmes hésite entre l'éclat et la douceur. Il m'est presque impossible de l'arracher à cette piste de lui-même qu'il suit dans les flaques de pluie. Pareil au dernier pas du soleil. Il est ce trouble profond, cet abîme duquel vous détournez les yeux.
Voilà, et avant récidive, on a un problème de micro, voilà. Merci Jean-Pierre. Aragon récidive, dans la préface du libertinage, le libertinage qui est tout de même qui est un texte de 1924, qui est vraiment le texte surréaliste par excellence. Et Aragon se défend d'aimer contre le goût dominant de son époque. Et alors vous allez voir quand même la comparaison, elle est impressionnante. Victor Hugo, Émile Zola et Henri Bataille.
Il revient.
Voilà. Et quand même, bon, c'est vrai que sur les trois, c'est un peu surprenant. Et alors, 10 ans plus tard, on est en 1934, Henri Bataille réapparaît dans Les cloches de Bâle, le premier roman donc du cycle réaliste Le monde réel, qui se terminera donc 20 ans plus tard avec les communistes qui sont inachevés. Catherine Simonidze, qui est la figure de la femme révolutionnaire, etc. Elle rencontre Henri Bataille, dans un chapitre, qu'on peut pas citer parce qu'il est long, mais moi d'ailleurs, j'avoue que quand j'ai lu les cloches de Bâle, il y a longtemps, hein, parce que c'est quand même souvent par là qu'on entre dans l'œuvre d'Aragon, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait ce personnage appelé Henri Bataille, bon, parce que c'est vrai, plus personne ne parle de lui.
Mais qu'est-ce qui l'a séduit dans ce personnage? T'as une idée de...
Je pense que c'est les contradictions quand même de un petit peu d'Aragon par rapport à cette littérature bourgeoise qui est son milieu, quoi. Aragon dans la pension de famille que tient sa mère, hein, j'aimais déjà les étrangères, hein, d'ailleurs c'est le personnage de Catherine Simonidze. Bon, c'est cette littérature mais qu'on méprise beaucoup, parce que c'est vrai que le théâtre, par exemple, où il y a eu une rupture, c'est à travers ce théâtre, Ionesco, Beckett d'un côté, Brecht de l'autre. Mais le théâtre, c'est un théâtre bourgeois qui s'intéresse quand même aux questions un peu à la crise de la bourgeoisie, par exemple la crise du couple, la question du divorce, tout ça c'est traité par Bataille, mais il y a aussi d'autres auteurs. Je pense par exemple à un auteur qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelle Georges de Porto-Riche, mais qui est un auteur qui est un succès fou au début du XXe. Et moi, j'ai eu la curiosité, parce que chez les bouquinistes lyonnais, là, j'achetais beaucoup, moi, les petites illustrations théâtrales. D'ailleurs, ils les vendent au kilo, maintenant, hein. C'est des trucs reliés. Et moi, j'ai tout ça. D'ailleurs, c'est très encombrant. Mais on a parfois des surprises, quoi, en disant, mais finalement, ils posent des questions, des questions réelles, quoi. Mais alors c'est vrai que c'est un théâtre un peu prétentieux, bon, c'est très écrit, c'est très littéraire, et je pense qu'Aragon, il aimait ça, quoi. Ça, c'est certain. Et alors, on le retrouve, parce que là, bon, les années 30, d'accord, mais si on se reporte 30 ans plus tard, même plus de 30 ans plus tard, Blanche ou l'oubli, c'est 1967, et alors Blanche ou l'oubli, c'est quand même un roman qui dialogue à travers le personnage principal de Geoffroy Guéffier, qui est un linguiste, et la linguistique des années 60, c'est le fer de lance de la modernité. Et il y a tout ce dialogue avec l'avant-garde de la pensée structuraliste, hein, Michel Foucault, Noam Chomsky, Jemslow, un des grands linguistes norvégiens, et eh bien, Aragon fait encore allusion à Bataille.
Vous m'agacez avec votre Henri Bataille.
Dit Marie Noire, qui est la jeune fille fer de lance de la modernité du roman.
Et elle a en effet tout à fait l'air d'être agacée. Il n'y a plus que vous pour parler d'Henri Bataille. Cela ne plaît plus à personne. Et quand vous dites Bataille tout court, tout le monde croit que c'est Georges.
Effectivement, dans les années 60, on ne parle que de Georges Bataille. Hein? cet Henri Bataille, donc, je pense que il reflète vraiment la conception d'un théâtre qui est un théâtre très écrit, un théâtre littéraire. Ça répond un peu à cette interrogation là de que tu posais, Jean-Pierre. Et un théâtre qui finalement va se prolonger assez tard dans le siècle, avec d'ailleurs des gens qu'on ne joue plus aujourd'hui. Et je pense à Giraudoux, on joue plus Giraudoux. Mauriac, hein, on pense au romancier bien sûr, mais faut pas oublier que Mauriac il s'est adressé au public à travers également le théâtre. Et il y a deux pièces de Mauriac, Asmodée, hein, par exemple Édouard Bourdet, quand il a été nommé à l'administration de la Comédie française, il a commandé une pièce à Mauriac pour ouvrir son mandat. Et c'est Asmodée. Et Asmodée, cette pièce, quand on la lit, elle est loin d'être ridicule, hein, mais c'est un débat entre un père et ses filles, le père est alcoolique, enfin bon, c'est du Mauriac, quoi, c'est vraiment du Mauriac. Et puis, il y a une autre pièce que Mauriac a écrite, qui s'appelle Les Mal-aimés, et bon, ça tient la route, quoi, hein, c'est pas nul, mais aujourd'hui, il viendrait pas à l'idée d'un metteur en scène de monter ça, quoi.
Ça date de quelle année, ces deux pièces?
Alors, le Asmodée, c'est 37 ou 38, ça faudrait que je vérifie. Et Les Mal-aimés, j'en suis certain, c'est 45. Et il faut pas oublier quand même que les deux metteurs en scène de ces pièces de Mauriac, c'est pour Asmodée, Jacques Copeau, et pour Les Mal-aimés, c'est Jean-Louis Barrault. Donc, c'est quand même pas... Et puis avec des interprètes, bon, il y a Aimé Clarion, qui est un grand comédien de l'époque, Gisèle Casadesus, René Faure, enfin bon, il y a des distributions, Julien Berthaud, qui est aussi... Et Julien Berthaud, c'est un comédien, bon, qui est communiste, qui est aussi l'interprète principal du film de Renoir, je crois que c'est Le jour se lève. Enfin bon, c'est pas des comédiens secondaires, quoi. Et puis surtout dans le registre alors de théâtre vraiment littéraire, c'est Monterland. Hein, Monterland, 42 La Reine morte, et jusque dans les années 70, on joue du Monterland. Enfin Monterland, c'est le grand auteur. Alors opposé, bon, ben à l'avant-garde, Ionesco, etc., mais qui est quand même très joué. Et je sais que en 60, quand la Comédie française a inscrit à son répertoire le Cardinal d'Espagne, c'est une pièce que Villars voulait monter au TNP. Et alors que finalement, quand on regarde les grands théâtres nationaux, Comédie française, TNP, et puis Théâtre de l'Odéon dirigé par Barrault, ils ont assez peu servi finalement Ionesco et Beckett, mais par contre, bon, ben Monterland a quand même été beaucoup joué, quoi. Il y a eu un choix, ce grand théâtre littéraire avec bon des décors souvent le théâtre un peu historique, alors qu'aujourd'hui, ben Monterland, il a complètement disparu de la circulation. Et c'est vrai quand on le lit, bon, ben c'est un théâtre qui est fait de belles phrases. Avec des personnages qui parlent, comme on parle pas dans la vie, quoi. Hein. C'est vraiment de la littérature, quoi, de la littérature théâtrale. C'est pas en vers, mais bon, c'est du théâtre littéraire, quoi.
Oui, mais Corneille, Racine aussi, et il continue d'être joué.
Oui, mais sauf que eux, ils ont écrit au 17e, et puis nous, on est au 20e, quoi. Hein. C'est sûr que.
Il devait y avoir un contenu, une idée quand même qui devait être, qui peuvent être encore d'actualité chez Racine ou chez Corneille, même si c'est antécédent à Monterland. Ouais. Je pense qu'il y avait une pensée qui devait être quand même importante.
Ouais. Ben Monterland où c'est un peu plus compliqué, c'est que bon en 42 La Reine morte. Il y a un article d'ailleurs dans les Lettres françaises qui dit que c'est de la on paye, enfin bon, il y a un peu cette arrière. Moi, c'est ce qui me... C'est quelqu'un moi que j'ai beaucoup lu à une époque de ma vie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, l'arrière-plan politique, c'est quand même nous dire, bon, ben, vos folies du Front populaire, vous les payez maintenant, quoi. Et puis, vous avez oublié la grandeur, etc. Bon, c'est vraiment réac. Hein,
puis Monterland s'est un peu compromis pendant la collaboration.
Ah ben ça, il s'est plus que compromis, ouais. Ça c'est certain. Mais en même temps, alors c'est vrai qu'avec Aragon, Monterland, Aragon, ils étaient tous les deux à Neuilly, là, à Sainte-Croix de Neuilly, je crois. Et bon, ils se sont connus, hein, quand même. Hein. Aragon, il devait avoir 2 ans de moins que Monterland. Il allait jouer l'après-midi chez les Monterland, qui étaient évidemment des gens très bien. Recommandable à tous les... Enfin, et ils avaient cette admiration commune pour Maurice Barrès. C'est vrai que Monterland, il vient quand même de ce milieu-là. Hein. De ce point de vue, Monterland n'est pas Maurice Thorez, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Mais je pense quand même que Monterland, culturellement... il est attaché à ce... Moi, j'ai ce souvenir, puis c'est le seul souvenir que j'ai d'Aragon, enfin personnel, l'ayant rencontré à la librairie Nouvelle qui était sur les quais de Saône, quand il est venu, j'ai retrouvé la date, hein, il est venu en 1980, et non pas comme je me l'étais figuré en 1977... pour ses 80 ans, en fait, j'ai retrouvé une lettre de Jean Albertini qui parle de cette venue, et c'est en 1980. Donc, c'est quand même déjà un vieil Aragon, et donc, on l'avait rencontré. Il y avait eu deux endroits. Il y avait eu l'auditorium. Bon, mais là, c'était une commémoration qui était un peu lamentable, avec un intervieweur qui voulait lui faire parler de ses amours avec Elsa, enfin bon. C'était un type de RMC, je crois, d'ailleurs, le gars qui... Après, on s'était retrouvé en plus petit comité à la librairie Nouvelle. Je me souviens, il y avait Jean Albertini qui était là. Et donc, on avait bavardé, quoi, avec Aragon, qui répondait aux questions auxquels il voulait bien répondre, hein, parce qu'il avait une surdité à deux niveaux, quoi. Hein. Les sourds ont cet avantage que y a des choses qui veulent bien entendre, quoi. Et moi, je lui avais posé cette question à laquelle je n'arrête pas de penser. Et là, j'ai un peu trouvé une réponse là en préparant cette émission. Je lui avais dit, mais pourquoi vous avez jamais écrit pour le théâtre? Bah bon, il y a des petites scènes comme ça. Il m'a dit, mais le théâtre, c'est plus une affaire d'écrivain, c'est une affaire de metteur en scène. Et ça, je pense que c'est... Et à travers Henri Bataille, qui est peut-être un des derniers, quoi, un des derniers écrivains, c'est sûr que c'est de la littérature, quoi.
De même que Monterland.
De même que Monterland, oui, c'est certain. Mais même Monterland, moi, j'ai une chose que m'a raconté Jean Rista. Jean Rista a travaillé quelque temps à France Culture. Et on l'a envoyé interviewer Monterland. Donc, ils ont pris contact, etc. Et Monterland est arrivé avec les questions et les réponses à lire. ce qui est quand même assez hallucinant, quoi.
Oui, mais il y en a qui ont cette conception des entretiens radiophoniques.
Et Monterland, moi, les rares fois, parce que c'était vraiment pas un homme de médias, moi, les rares fois où je l'ai entendu, il s'est suicidé, je crois, en 72, donc c'était à la fin des années 60, mais il n'y avait aucune spontanéité, quoi. Chez Aragon, d'ailleurs, non plus, hein, faut dire que Aragon, à la radio, c'est quand même assez pontifiant. Hein. Mais Monterland, enfin, Rista m'a dit, il était sidéré, quoi, cette manière de voir les choses, quoi, les questions, les réponses. Et il avait tout rédigé, quoi. Et Rista, il a lu les questions que Monterland voulait qu'on lui pose. C'est assez sidérant.
On fait une pause musicale?
Oui, on fait une pause musicale.
Un texte de Louis Aragon, bien sûr, mis en musique et interprété par Hélène Martin. C'est une de ses dernières créations aragoniennes, bien que pas toute récente maintenant. Un poème extrait de Chagall, ou celui qui dit les choses sans rien dire. J'ai dormi sous la voiture. C'est un petit peu surprenant, mais c'est bien.
J'ai dormi sous la voiture entre le coq et le chien.
neige, 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 tout est blanc, 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 si bien. Que rien n'est grandeur nature, que rien n'est grandeur nature. Les hommes de ce village avant moi se sont levés. Neige, neige, d'où venais-je pour empêcher de couver? Les poules du voisinage, les poules du voisinage. On ne leur voit que le cuir noir sur cet hiver dansant. Arlequin de neige, que neige, votre grand rire indécent. Qui fait la volaille fuir, qui fait la volaille fuir. Mariole, Mariole, où donc avez-vous vécu? Pour donner ainsi manège et frapper le sol du cul. Aux faiseurs de cabriole, aux faiseurs de cabriole.
Interprétait « J'ai dormi sous la voiture », un texte de Louis Aragon qu'elle a mis en musique. Nous retrouvons Jean et Maria pour la poursuite de cette émission consacrée à l'œuvre de Louis Aragon.
Oui, alors ce qu'on a trouvé dans Théâtre Roman, cette rupture, ce passage, hein, parce que quand même 68, c'est par définition le moment du passage. Et c'est le moment où ce théâtre, ce vieux théâtre, il bascule dans la rue. Il bascule dans la rue. Et il y a cette crise esthétique qui rejoint l'histoire. Ce qui n'est pas d'ailleurs forcément perceptible au moment de la Résistance, parce que finalement, l'art et la littérature qui illustrent ce moment historique fort, qui est celui de la Résistance contre l'Allemagne nazie, ça se voit pas forcément sur le plan esthétique, alors que là on a une subversion théâtrale qui apparaît, oui, dans la rue, sur les murs, etc. Et donc je pense que dans l'extrait là, qu'on va vous lire, Aragon le perçoit très bien.
Et je pense que mai 68 est une lecture beaucoup plus facile que la Résistance, parce que la Résistance, bon, il a fallu être à l'arrière de tout ce qui se passait dans la rue, alors que C'est l'inverse pour 68. Aragon dit « Je voyais détruit le puzzle patiemment ajusté de ma vie. Il m'arrivait de penser « Qu'importe. C'est peut-être le prix de l'avenir, non ? Sans doute, des gens. Mes compagnons d'hier, me criaient-ils quand c'en était fini du théâtre, de notre théâtre, et les décors allaient brûler dans les édifices ruinés de notre culte païen jusqu'au fond des provinces. Les troupes étaient déjà dispersées. Personne n'avait appris cette pièce géante qui se jouait dans le quartier Saint-Michel, reprenant chaque soir, sans espoir apparent de se dénoncer. Il ne nous restait plus, semblait-il, qu'à coucher sur les grilles des métros, avec nos semblables, dans les hardes inutiles de notre profession. Pêle-mêle de respiration, tête bêche de sommeil entre les pieds des passants. Sans doute avais-je commencé par croire à ce bouleversement comme un juste séisme qui allait jeter bas les vieilles traditions, en finir avec l'ancien théâtre, en même temps qu'avec l'ancienne vie. L'amas construit des injustices, en secouer la poussière et les conventions, rendre sa place à la jeunesse. Fût-ce aux dépens de mes semblables, brouiller les cartes du jeu, en changer les règles, donner des parts à l'homme dans l'heure de sa première force. La fleur de sa beauté physique, l'emballement de sa pensée. J'écoutais avec une espèce de ravissement de jeune diable, parlant un langage dont la cruauté me faisait parfois frémir, portant condamnation de ce qui m'avait longtemps semblé la nouveauté, l'invention, l'art, quoi.
Oui, c'est un texte très fort. Et à ça, Aragon va superposer une description assez hallucinante en citant la fin de l'acte 3 du Roi Lear de Shakespeare, hein, parce que théâtre roman fourmille de références au théâtre. Alors, on a deux personnages, il y a deux groupes de personnages, donc il y a Lear et ses filles, et puis il y a également le personnage de Gloucester, qui est un vieil homme, et de ses deux garçons, Edgar et Edmond. Avec toujours ce thème, on est toujours dans la transmission, les enfants qui héritent et les enfants qui, au contraire, tuent les pères, quoi. Alors, le personnage de Cornouailles va arracher les yeux de Gloucester. Alors, trois répliques qu'on va vous lire. « Vous, là, tenez cette chaise. Sur tes yeux, je vais mettre mon pied. » Gloucester.
« Que celui qui espère vivre jusqu'à sa vieillesse me porte secours, ô cruel, ô Dieu. »
Cornouailles. Empêchons-le d'en voir davantage. Gicle de la vie, giclez. Oh, où est la vie à présent? Et dans ce théâtre devenu réalité, sous les mots du poète, tout se perd, y compris le vieil homme. Et voilà ce que dit Aragon. Face à ce spectacle, il m'arrivait d'être contre le vieux roi Lear et pour Cornouailles. Et Regan, donc, c'est une des filles de Lear qui est l'épouse de Cornouailles. Parce qu'ils étaient, après tout, la jeunesse. De nous considérer, nous, comme les complices de l'ancien système, même si nous en avions payé de nos malheurs nos travaux d'esclaves, le monstrueux fonctionnement. Pas de récupération. Cela s'inscrivait sur les tableaux, les institutions et le visage des hommes. J'acceptais qu'on me crève les yeux. Avec une sorte de frémissement sacré, j'acceptais la reconnaissance de tous les crimes que j'avais sans doute incarnés. Représenté. j'en convenais, ma vie était finie, et il me fallait payer du prix de son effacement le surgir des autres, l'instauration d'un désordre nouveau, au besoin de mes yeux crevés. Et ça nous conduit justement à Aragon. Aragon dans la tourmente 68. Et cette tourmente 68, bon, ceux parmi nous qui ont vécu cette époque, et j'en reviens à cette métaphore du théâtre. En quoi le 68, un des lieux emblématiques de 68, souvenez-vous, ça a été le théâtre de l'Odéon. Et le théâtre de l'Odéon, dans l'histoire du théâtre en France, c'est justement toute cette lie bourgeoise. Parce que le théâtre de l'Odéon, il est fondé au 19e siècle, et on l'appelle le second théâtre français. Le second théâtre français, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la Comédie française qui est le premier théâtre français, dans lequel il y a un répertoire constitué des œuvres dignes de rester au répertoire. Bon, cela dit, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais enfin, bon, il y a Racine, Corneille, Molière, etc. Bon. Et puis alors, les œuvres qui sont quand même un peu en dessous, on les joue au théâtre de l'Odéon, qui est le second théâtre français. Et pareil pour les comédiens, les premiers prix de conservatoire, à l'époque, il y a les prix, premier, deuxième, les premiers prix, ils rentrent automatiquement, ils sont obligés d'ailleurs, parce que sans ça, il y a procès, ils rentrent automatiquement à la Comédie française. Et quand on n'a qu'un accessite, ben on va jouer au théâtre de l'Odéon. Donc le théâtre de l'Odéon, il est que le second théâtre français. Et comme par hasard, donc à l'époque en 68, il est dirigé par Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, les étudiants vont occuper le théâtre de l'Odéon. Et Madeleine Renaud leur dit, mais allez à la Comédie française, c'est là le théâtre bourgeois. Mais non, ils restent à l'Odéon. Bon, et on connaît la fin d'ailleurs pour Barrault, ce sera terrible, puisque Malraux, à ce moment-là, le laissera tomber. Et je pense que là, ça nous amène justement à Aragon et mai 68. Alors, à ce propos, pour en finir avec cet aspect-là, au moment de la publication de Théâtre Roman, Aragon accorde à Yvonne Babi un entretien dans Le Monde du 29 mars 1974. Et un entretien qui s'intitule « Aragon parle de son nouveau roman ». Et celui-ci affirme qu'il s'adresse à la jeunesse en citant les derniers vers de son recueil « Les poètes ».« Homme de demain, soufflé sur les chardons, à vous de dire ce que je vois ». Mais surtout, il évoque dans cet entretien sa rencontre tumultueuse avec les étudiants contestataires, à laquelle d'ailleurs assiste un certain Cohn-Bendit.
En 1968, au mois de mai, il m'est arrivé à un endroit où, dans la journée, même les partisans les plus bruyants, je devrais dire les plus brillants, des étudiants qui contestent sur le boulevard Saint-Michel, n'avaient pu ouvrir la bouche. Et certainement encore, il y a des gens qui s'en souviennent. Il m'est arrivé, la parole m'ayant été donnée par Cohn-Bendit, sans tenir compte de diverses clameurs, de pouvoir m'adresser à ce public. Probablement le plus difficile auquel j'ai eu affaire dans ma vie. Je ne veux pas insister à ce sujet, mais on me permettra tout de même de dire que j'ai eu une certaine suite dans les idées pour ce qui concerne la confiance que je place dans la jeunesse de mon pays.
Voilà. Et cette révolution, puisqu'on est à Lyon, et peut-être que parmi nos auditeurs, il y en a qui ont assisté à cet événement, parce que moi, je sais que ça a été quelque chose de vrai, une véritable révélation, c'est quand Patrice Chéreau est arrivé à Villeurbanne. Donc il y avait c'était pas encore le TNP, c'était une saison qui s'appelait Préfiguration. On passait du théâtre de la Cité à l'actuel TNP. Et il avait monté un spectacle qui avait d'ailleurs fait un peu scandale. C'était Massacre à Paris de Marlov. Donc Massacre à Paris, ça n'a aucun rapport avec les événements contemporains. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Et il y avait 80 tonnes d'eau sur la Seine qui préfigurait, enfin qui montrait la Seine, le fleuve parisien. Et avec, c'était extraordinaire parce que le texte qui était pourtant la traduction était du poète Jean Vautier, mais le texte, bon, on l'entendait avec tous ces gens qui tombaient en permanence dans l'eau. En plus, on était tous éclaboussés. C'était, et là, on voyait bien ce passage du, bah, de la littérature au spectacle, quoi. Et c'était le génie de Chéreau qui, en plus, apportait à ce texte. On avait l'impression, et c'est sans doute ce qui scandalisait, parce qu'après, il y avait une polémique avec Poirot Delpech, qui, à l'époque, était le critique dramatique du Monde. Ça marquait, justement, finalement, l'insuffisance du texte de Marlowe et la reprise en compte par un metteur en scène contemporain de ce qu'avait été la Saint-Barthélemy. Mais enfin, il fallait qu'il y ait un Chéreau hein, qui soit capable d'illustrer ça. Voilà, alors on va en finir avec ce tome 5, parce que quand même, je vois que le temps passe. Alors, pour terminer là-dessus, on va peut-être lire ce que Jean Rista dit de... parce que Jean Rista a fait une très très belle préface du tome 5 sur Aragon. C'est un peu une œuvre, parce que bon, autour d'Aragon, c'est à partir de ses dernières œuvres, les interprétations sont multiples, notamment à travers des trois romans, La mise à mort, Blanche ou l'oubli, théâtre roman, finalement en disant, est-ce qu'Aragon nous a pas toujours raconté des histoires, le mentir vrai, etc. D'ailleurs, j'aime bien quand Philippe Forest, dans sa biographie dont on parlera ultérieurement, dit, chez Aragon, il y a mentir, mais il y a aussi vrai. Et je pense que...
C'est fin,
ça. Oui, ça, c'est... Et c'est juste. Mais on est plus dans le mentir aujourd'hui. Dire, il nous a bluffé toute sa vie. Mais il y a aussi la vérité. Et je trouve que Jean, dans son... à la fin de sa préface, là, que Maria va nous lire...
Oui, vous avouerez peut-être ne pas comprendre la fidélité au PCF. Il n'y a guère de fidélité qui ne soit critique ou douloureuse. Je quitte le parti le soir et le lendemain je réadhère, disait-il. Donc là, il parle d'Aragon. Et que faites-vous alors de l'idéal ou de l'idée communiste? De l'horizon de justice vers lequel Aragon n'a jamais cessé de tendre de toutes ses forces. Je laisse aux spécialistes le soin de s'armer de toutes les grilles d'interprétation analytique possibles. Le parti comme substitut de la famille, l'engagement comme religion, le dominicain breton et le gallican aragon. Bon appétit, messieurs. Je demande simplement qu'on lise Aragon. Je me dis que j'ai aujourd'hui l'âge d'Aragon lorsque, en 1965, je l'ai rencontré. J'entends encore sa voix lorsqu'il me lisait, quelques années plus tard, le manuscrit de théâtre roman. Je t'enseigne, ô mon petit, les mathématiques du malheur. Je t'interdis d'oublier jamais où tu vas, comme moi tombé au bout du compte, d'oublier la folie étrange de nier l'horreur. Je t'interdis d'oublier la leçon du désespoir. Aragon, l'homme écrit, l'homme mis en mots, comme on dirait, mis en pièces.
Oui, l'homme mis en mots, c'est tout à fait ça. Voilà, sur ce tome 5. Alors, on pourrait peut-être faire une pause à ce moment-là avant de conclure sur l'actualité de l'édition d'Aragon, puisqu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas publiées.
Alors, eh bien, on va la faire avec Gérard-André Gaillard. Toujours un texte d'Aragon qu'il a mis en musique. Je suis assis au bord des sables.
je suis assis au bord des sables, chantant la mort et les baisers, à l'heure où le ciel embrasé m'offre portrait reconnaissable de l'avenir couleur de fable. Je suis assis au bord des bancs où ne s'entendent que bruit d'elle, ne se meurt clameur que d'elle, que d'elle orage dérivant, nuage d'après ou d'avant. Je suis assis au bord des mers dont les murmures naufragés parle de pays étrangers, où comme ici vivrait ta mère, mais d'autres comme nous s'aimaient. Je suis assis au bord du temps qui bat vite, plus vite. Veut-il vraiment que tu me quittes? Ce cœur fou qui va l'imitant, je ne puis l'arrêter pourtant. Je suis assis au bord des rêves qui sont uniquement de toi l'étoile sur le toit, de toi la douleur qui fait trêve, de toi l'aube enfin qui se lève. Je suis assis au bord des cris, au bord des guerres et des drames. J'ai joué, j'ai perdu mon âme. J'ai maintenant des cheveux gris. Ce que j'aimais, on me l'a pris.
Chère rentré, interprété « Je suis assis au bord des sables », c'est un texte de dans le Fou d'Elsace. Je vous redonne la parole.
Est-ce qu'on a l'œuvre complète d'Aragon? Donc, 5 pléiades romans, 2 pléiades poésie. Il reste que Jean Rista, qui est l'héritier d'Aragon et d'Elsa, a en charge la publication de leurs textes. Alors, il y a un projet... Enfin, il nous manque beaucoup de textes. Hein. Je pense à des textes qui ont été édités sous forme de livres, hein, par exemple des essais. Je pense à La Lumière de Stendhal, qui est une suite de textes qui portent pas uniquement sur Stendhal, mais qui portent sur la question du réalisme. Il y a également un recueil de textes qui s'intitule « Littérature soviétique ». Avec notamment un texte qui porte sur Maïakovski et Shakespeare. Il y a également des textes comme Courbet. Et puis il y a également, qui n'ont été édités, il figure dans aucun pléiade, ce texte qui s'appelle Traité du style. Donc ce sont des essais. Hein. Traité du style, c'est encore de la période surréaliste. Hein. C'est ce texte qui est célèbre. Beaucoup de gens citent la première phrase sur la langue française qui commence ainsi « Faire en français signifie chier ». Et ce texte, il est disponible en poche. Hein, je crois qu'on le trouve dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Et ça, c'est donc il serait question de réunir dans ce volume d'essais ces textes-là. Sauf que et là-dessus, Jean Rista, il tient beaucoup. Il y a tout. Faut pas oublier que le métier d'Aragon, c'était un métier de journaliste. Et il était directeur du journal Ce Soir. Avant, il était employé, comme pigiste, à l'Humanité, hein. Paul Vaillant-Couturier l'avait, l'avait intégré comme pigiste. Et par exemple, c'est lui qui a couvert la grève des taxis parisiens. Bon, donc il y a ces textes-là. Puis bon, en tant que directeur des lettres françaises, il a quand même beaucoup écrit sur des peintres, des... Voilà, mais les peintres, l'aspect purement esthétique, celui-là, il est quand même réuni dans une édition dont on parlera la prochaine fois. Les écrits sur l'art qui se sont considérablement enrichis. Il y a une première édition tronquée et puis une deuxième édition beaucoup plus complète sur les questions de l'art et de la politique et également sur un certain nombre de peintres sur qui il a beaucoup écrit, hein, Léger, Braque, Picasso, etc. Et il y a eu un projet qui a été mis en place et qui malheureusement a capoté, c'est arrêté, qui paraissait chez Stock, c'était les chroniques du siècle. Il y a un volume qui est paru, donc qui a recensé les premiers textes d'Aragon, ben des années 20, hein, puisque c'était une édition chronologique. Alors, ce à quoi se heurte Jean Rista, c'est que les éditeurs veulent bien faire des éditions thématiques. Par exemple, Aragon et la politique, ça devrait être possible. Aragon et le roman, enfin bon, etc. Mais Jean Rista voudrait, et je pense que ça c'est intéressant, faire une édition vraiment chronologique, hein, où on voit le... Mais incluant tous les termes, enfin dans la mesure du possible... Hein, parce que ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, certains textes sont pas... Il y a des éditos qui sont signés, je pense, ce soir, ou les lettres françaises. Bon, on n'est pas toujours certain de l'auteur. Mais enfin, dans la mesure du possible, faire une édition chronologique, parce que pour Rista, et ça c'est le grand combat d'ailleurs, voire même contre des gens, par exemple, comme Daniel Bougnou, qui souvent veulent extraire l'engagement politique d'Aragon, que pour Rista, l'activité journalistique d'Aragon, elle fait intégralement partie de son œuvre. Et alors actuellement, donc, il y a ce projet d'un Pléiade essai, donc qui a été confié à Olivier Barbaran, qui par exemple va inclure différentes choses, mais bon, en triant et en excluant, et je sais que les relations sont difficiles parce que y a la politique Gallimard qui sous-estime un peu cette activité politique d'Aragon, et puis cette volonté de publier tout Aragon, quoi, enfin dans la mesure du possible. Alors bon, on en est là actuellement, et c'est ce Pléiade va sortir, je sais pas quand, hein, parce que bon, il y a du boulot. Moi, je sais que j'ai envoyé, parce que j'avais envoyé le fameux article qu'Aragon a publié sur le spectacle, la lettre à André Breton, où il lui parle du regard du sourd de Bob Wilson en 1971. Donc, c'est une lettre posthume, évidemment. Et donc ça va être inclus dans le Pléiade, hein. Ça c'est bon, ça dérange pas Gallimard. Mais par contre, il y a d'autres choses qui sont par exemple, il y a tout un tas de choses qui se disent au moment de la déclaration de guerre sur le pacte germano-soviétique. Bon, apparemment, ils veulent pas en entendre parler.
En fait, ce qui présente plus de difficultés à éditer, c'est plutôt la partie politique.
Ah ben, c'est la partie politique, ça c'est certain.
Simplement.
Oui. Alors, si on dit deux mots aussi, parce que elle en fait partie, même si c'est pas notre sujet, en ce qui concerne Elsa. Alors là, il n'est pas question de Pléiade. Hein. Et puis, il n'est même pas question, il y avait un projet, on en avait parlé dans nos émissions sur Elsa, il y avait un projet de faire un quarto, qui est quand même une collection qui est intéressante, les auteurs qui sont en quarto. Mais Gallimard ne veut pas en entendre parler, et malheureusement, Jean Rista a beaucoup de mal à faire même rééditer des folios, à part Rosa Crédit. Il y a des textes intéressants comme Le Monument, Le Rendez-vous des étrangers, mais bon, surtout par les temps qui courent.
Et il peut pas passer vers une autre maison d'édition?
Non.
Oui, parce que c'est curieux, tout de même, une femme qui a eu un prix Goncourt. On s'intéresse pas plus à l'édition.
Il y a beaucoup d'autres prix Goncourt qui sont oubliés.
Oui, c'est sûr.
C'est
pas forcément.
Un mot de la prochaine émission. Contenu.
Oui, ben le contenu de la prochaine émission. Alors là, c'est sûr, on changera pas l'ordre. On voulait en parler aujourd'hui, mais c'est quand même un livre qui est tellement riche. C'est les écrits sur l'art qui ont été réédités chez Flammarion. D'ailleurs, il y a eu un accord là entre Gallimard et Flammarion sur les essais. Il y aura pas les écrits sur l'art. Hein, bon. Alors les écrits sur l'art, il y a deux aspects. C'est pour ça que ça nous a paru quand même important. Aragon a quand même été très important dans la politique artistique du Parti communiste. Par exemple, il y a un texte, mais un texte d'ailleurs qui est très long. Bon, on en parlera, mais on le citera pas intégralement, bien sûr. Sur l'art de parti. Hein, il y a eu quand même cette conception politique qu'il devait y avoir un art de parti. Et puis, il y a eu quand même des déboires avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut être réaliste, etc. Puis il y a aussi ça c'est l'aspect art et politique. Et puis il y a aussi des questions esthétiques et notamment la question du réalisme. Aragon a toujours revendiqué le réalisme, mais tout en soutenant les formes d'avant-garde du réalisme. Hein, notamment un texte très intéressant sur les collages, hein, qui a été édité. Séparément d'ailleurs. Et puis, certains de ses amis, hein, bon ben, il écrit beaucoup sur Picasso, Braque. Donc il y a ce compagnonnage. Et puis, au moment de sa fin de vie, les jeunes artistes. Hein, Aragon a toujours été très proche de la jeunesse. Donc je pense que ça peut donner matière à une émission entière. Puis Maria est bien placée pour parler de ces aspects-là. Voilà, donc on fera quelque chose autour de ça.
Eh bien, je vous remercie et puis à bientôt.
À bientôt. À bientôt, Jean-Pierre. Thank you.